Amis auditeurs, amis auditrices, nous revoilà dans une nouvelle émission d'Enquête de cinéma. Cette fois-ci, on vous présente la deuxième partie du reportage réalisé avec Simone Beaton à Marseille à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kbir. Simone nous reçoit à grand cœur ouvert. Généreusement, elle nous raconte le rêve qu'elle tisse à travers les lieux où ses films l'emmènent. Un pont de l'Orient à l'Occident, entre les langues et les peuples, arabes, juifs, juifs et arabes, de Rabat au Maroc, à Gaza en Palestine, le cœur chavire entre Marseille qui l'accueille aujourd'hui et le Paris de ses plus belles années de jeunesse. Bonne écoute. راسل بالدير والمهرة القلب الكاسح للصفرة لحفة الأجدان والفقر عمري ما نسيت
Alors, juste une petite question avant de passer à la deuxième partie. Hadjenmon, il finit ses jours au Maroc, c'est-à-dire qu'il vit à Paris, il s'exile à Paris, et dans les dernières années, il revient s'installer à Rabat. Ça t'a donné des idées ou...
Pour moi-même un petit peu, parce que... Enfin, c'est pas à cause d'Edmond, mais... Quand j'ai commencé à travailler sur mon film Ziyara, qui était un travail de longue haleine, parce que je voulais voir beaucoup de lieux juifs et qu'il y en a partout dans tout le Maroc, il fallait que je fasse des longs séjours, j'ai loué un appartement à Rabat, en plus à 200 mètres de l'endroit où j'ai grandi, et donc j'ai un peu expérimenté ce que c'était que de vivre au Maroc au jour le jour, quoi, et pas seulement en visite, à payer la facture d'électricité, le machin, voilà, de faire son marché et tout. Mais contrairement à lui, pour moi, l'expérience n'a pas été vraiment... concluante, quoi. J'ai aimé ça et en même temps ça m'a, peut-être que je n'étais pas assez âgée, je sais pas, mais j'ai aimé ça et en même temps ça m'a fait comprendre que j'étais très attachée à Paris et que je voulais continuer d'y vivre, quoi, voilà, pour le moment en tout cas. Donc je n'ai pas prolonger l'expérience. Mais Edmond est revenu au Maroc à un âge beaucoup plus avancé. Il est revenu au Maroc, il avait déjà 80 ans. C'était après la mort de son épouse. Plus rien ne le retenait. Plus rien ne le retenait en France, en fait. Voilà. Plus rien de... Parce que son épouse, c'était tout pour lui. Enfin, il n'aurait pas pu vivre seul.
Edmond, comment te raconter, tu as eu tellement de vie. Tu étais juif, mais nous t'appelions Al-Hajj, comme si tu avais fait le pèlerinage de la Mecque.
Dès que je l'ai vu au feu rouge, pour moi, c'était une photo à faire immédiatement.
Ne pas rire trop fort. Ne pas parler à trop haute voix. Ne plus manger avec les doigts. Ne pas dire « ah » quand on a mal, mais le « aïe » français, poli et neutre. Ne plus dire « imma », mais « maman ». Autant d'interdits pour apprendre à ne pas vivre.
«
ces derniers temps, j'ai beaucoup pensé à toi. J'ai montré ton livre à un artisan. Il m'a fait cet objet en souvenir. Tu vois quelque chose?
Très peu.
Quoi?
Ben c'est... L'intérieur est encombré de déchets divers.
Et bientôt, dans cette grande pièce transformée en synagogue, les têtes se couvrirent de talit et de soie blanche rayée de bleu. Ardente, fervente, tissée dans le silence, la prière montait. Implorer le pardon pour les crimes commis, le kaddish pour l'enfant mort.
Ce qui est touché le plus, Edmond, c'est plus que la Palestine, c'est le Maroc. Il ne pardonne pas à Israël d'avoir assassiné la personnalité juive marocaine dans son pays.
Sur cette photo d'identité, tu as 20 ans, Hajj. Et dans tes yeux, je lis que tu allais bientôt choisir ton camp.
Le fait qu'il soit parti du Maroc pour s'exiler volontairement en France, c'est un acte de résistance.
Je mets une image après l'autre, Hajj. Pour retrouver le temps.
C'était presque comme si nous étions nés dans le même pays qui était le pays qu'on nous avait enlevé.
Mais il n'est pas musulman.
Il est musulman yéhoudi. Il est le Subhan al-Maghrib, Nishir.
Mais c'était très beau, les dernières années de sa vie étaient très belles parce qu'il s'est entouré d'un nouveau cercle, de nouveaux jeunes, très jeunes, beaucoup plus jeunes que lui. Les jeunes écrivains, les jeunes plasticiens marocains se sont occupés de lui merveilleusement. Il y a quelque chose dans la culture marocaine qui est formidable. Qui est justement cette manière de s'occuper des vieilles personnes, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas ici, quoi. Même c'est, qu'on n'a pas, tout simplement, ou qu'on a perdu, je ne sais pas. Mais et c'est très émouvant. Moi, je trouvais ça très émouvant quand j'allais le voir. Il m'est arrivé de lui rendre visite. Et de voir cet homme seul, donc sans famille, puisqu'il n'avait plus aucune famille au Maroc, mais qui n'était jamais seul. Il y avait toujours, il n'a jamais déjeuné seul. Enfin, les gens, sans en parler, sans, c'était naturel. Il se relayait auprès de lui, comme ça. Voilà, les gens. Il y avait toujours des gens. C'était merveilleux. Ça, c'est très beau au Maroc, ça.
Autre film réalisé au Maroc, qui est un peu plus ancien, c'est l'équation Ben Barka, l'équation marocaine, un film réalisé en 2001. Alors c'est quoi l'équation marocaine?
Alors ça, c'est un film de télévision qui a été fait pour les mercredis de l'histoire de Arte, qui est une émission qui n'existe plus, c'est une case qui n'existe plus, où on pouvait effectivement traiter d'histoire, de sujets historiques en profondeur, en ayant le temps de travailler, d'enquêter. Et c'est une biographie de Mehdi Ben Barka, c'est-à-dire du fondateur de la gauche marocaine, qui a été disparu, kidnappé et assassiné à Paris en 1965. Et c'est, sa mort, sa disparition a été un immense scandale. On parle toujours de l'affaire Ben Barka, parce que ça s'est passé en plein Paris, qu'il y avait des policiers français impliqués, Et ça a causé une brouille de plusieurs mois entre le général de Gaulle et Hassan II. Et l'affaire Ben Barka, sur ça, il y a eu des dizaines de reportages. On n'a jamais su exactement comment il a été tué, où est son corps. Son corps n'a pas encore été retrouvé jusqu'à ce jour.
On parle d'un crime sans cadavre.
On parle d'un crime sans cadavre. Et d'un crime politique qui a eu des répercussions énormes pour le Maroc et pour le tiers-monde en général, parce que Ben Barka était aussi il était en train de préparer la conférence tricontinentale avec Fidel Castro. Enfin, ce genre de crime politique, malheureusement, comme il y en a qui sont réussis, c'est-à-dire qui mettent un terme à quelque chose qui était en train de menacer les puissants. Et moi, je ne voulais pas faire un film sur l'affaire Ben Barka. Moi, je ne suis pas enquêtrice, je n'avais pas de révélation, je ne suis pas journaliste ni juge. Par contre, je voulais faire ce que personne n'avait fait et ce que son crime, sa mort avait sans doute servi à ça, c'est-à-dire que je voulais faire un film sur sa vie. Qui est une des manières d'expliquer pourquoi il est mort, pourquoi il a été tué. Parce que tout le monde sait qu'il y a eu une affaire Ben Barka, mais personne ne sait qui était Ben Barka. Donc moi, j'ai décidé de raconter l'histoire de sa vie, depuis sa naissance jusqu'au jour où il a disparu sur un trottoir parisien. Et c'est ce film-là.
Et à travers lui, c'est toute l'histoire marocaine, toute l'histoire du mouvement indépendantiste.
C'est l'histoire de la décolonisation du Maroc, de la lutte pour l'indépendance, du mouvement national marocain, du parti de l'Istiklal, qui était la force la plus importante. Et puis, c'est la naissance de la gauche. C'est le début c'est le début de la fin, quoi. Enfin, c'est des premières années d'indépendance. Parce que Ben Barka a été le premier président de la première assemblée marocaine, je dirais. En tant qu'un des dirigeants du parti national, il a commencé par avoir les honneurs et des postes très importants au début de l'indépendance, pendant les premières années de l'indépendance. Et c'est seulement après qu'il ait fait scission avec ses amis du mouvement national pour créer la gauche, pour créer l'UNFP, l'Union nationale des forces populaires, et ensuite l'Union socialiste des forces populaires, c'est là qu'il est devenu un opposant et un homme à abattre.
Et à travers son parcours aussi, c'est l'entrée dans les années de plomb.
L'assassinat de Ben Barka marque en quelque sorte le début réel des années de plomb, quoi. Le pire des années de plomb a commencé avec ça, quoi.
Et alors, il y a une phrase, moi, qui m'a marqué dans le film, qui est dite par un responsable de gauche, qui dit qu'en fait, que sa disparition correspond à la philosophie du pouvoir de l'époque. Si une fleur s'épanouit dans un jardin, il faut la couper avant qu'elle ne diffuse son parfum.
Voilà, oui, c'est vrai. Je me rappelle de cette phrase.
Depuis 35 ans, ils viennent ici tous les 29 octobre, sur le trottoir parisien où Ben Barka a disparu. Ben Barka, c'est leur jeunesse, c'est leur exil. L'affaire Ben Barka fut l'un des grands scandales politiques de la Ve République. La disparition d'un opposant marocain en plein Paris, avec la complicité de policiers français et de services secrets étrangers. Un crime sans cadavre, une parodie de justice. Au Maroc, son nom était l'un des grands tabous du règne de Hassan II. Son image a été effacée, sa vie occultée. Ben Barka, c'est l'incarnation de tous les paradoxes, toutes les ambiguïtés, dans un pays malade de son passé.
Oui, c'est beaucoup de gens dans le film disent on ne sait pas ce que le Maroc serait devenu. C'était un coup net, voilà. Et puis c'était quand on tue quelqu'un comme ça, c'est aussi pour faire peur à tous les autres, et ça a réussi complètement. C'est-à-dire la gauche marocaine a été décapitée et ensuite elle a vécu dans la peur et dans la répression, et elle ne s'en est malheureusement jamais remise. Mais bon, le film n'a pas l'ambition d'aller jusqu'à aujourd'hui, mais comme je dis souvent, quand Faire un film sur le passé, ça sert à éclairer le présent. Et faire de l'histoire en général. L'histoire devient intéressante quand elle éclaire le présent. C'est dans l'histoire qu'on comprend ce qui se passe après l'histoire. Donc voilà, c'est un film qui était très important pour moi parce que c'est le premier film que j'ai tourné au Maroc. En fait, je ne retournais pas au Maroc pendant toutes les... Pendant 20 ans, 30 ans, je ne suis pas retournée au Maroc alors que j'aurais pu. Enfin, j'y suis allée une ou deux fois en vacances comme une Française. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai eu la nationalité française, je suis allée au Maroc. J'ai eu quelques voyages intimes, justement, émouvants, mais ce n'était pas du tout pour faire des films. Et de toute façon, il y avait la répression, c'était les années de plomb, et moi, je n'y connaissais pas grand-chose, et ça ne m'attirait pas. Moi, j'étais en plein dans mes films sur la Palestine pendant toutes ces années-là.
À la suite des sanglantes émeutes de Casablanca, de sévères mesures de protection ont été prises par les autorités franco-marocaines. Des perquisitions ont été effectuées dans les centrales syndicales, où l'on a saisi de nombreux documents établissant la collusion de tous les éléments extrémistes.
Les yeux sans cils, le front sans sourcils, le crâne chauve d'Abdellah Layachi, c'est le résultat de la torture. Comme lui, de nombreux résistants marocains ont été martyrisés à l'électricité. C'était avant même le déclenchement de la guerre d'Algérie. Maintenant, c'est le sultan qui se révolte. Il refuse de signer les décrets. Il adopte le calot des nationalistes, rendu célèbre par le pandi Nehru. Pour Ben Barka, comme pour tous les Marocains, la famille royale devient le symbole de l'aspiration à l'indépendance. À la résidence, on décide que si le roi ne change pas, il faut changer le roi. Il fallait être particulièrement imbécile pour donner de tels martyrs aux nationalistes marocains. Mais cette imbécilité-là, le résident général Guillaume n'en est pas dépourvu. Le jour de l'Aïd el-Kébir, la plus grande fête musulmane, il commet l'erreur la plus phénoménale de l'histoire coloniale de la France. L'intronisation du sultan fantoche Ben Arafa. Un alaouite de 70 ans, très pieux, dépassé par les événements. Embarqué de force dans un avion militaire, Mohamed V et ses fils sont déportés à Madagascar, tels de vulgaires militants anticoloniaux. Dans la culture populaire marocaine, l'humour et l'irrationnel ont toujours fait bon ménage. L'inimaginable s'étant produit, le résultat sera extraordinaire. Chaque soir de pleine lune, par un joyeux phénomène d'hallucination collective, les Marocains voient le visage de leur roi apparaître dans le ciel.
On disait aux gens, regardez Mohamed V. Et les femmes dans les terrasses lançaient des you-you, tout ça. Et vraiment, les gens, les Français disaient, les Marocains sont fous, ils sont devenus cinglés. Arabes, ils sont allés partout, sur toutes les terrasses. Ils ont hurlé, ils ont dit, you-you, on a vu Mohamed V. Puis, quel coup de pluie, Oh, le Mohamed V pleurait.
Les attentats, le terrorisme, la violence aveugle des colonisés. À Casablanca, une bombe tue des dizaines de Français qui font leur course de Noël. Ce que la France redoute par-dessus tout est en train d'arriver. Une insurrection générale en Afrique du Nord. Une organisation secrète s'organise en armée de libération. Elle ne va pas tarder à établir la liaison avec les Algériens. Pour garder l'Algérie, la France est prête à négocier en Tunisie et au Maroc. Les nationalistes emprisonnés ne peuvent être tenus pour responsables des attentats. Ils deviennent des interlocuteurs valables. Fin 54, Ben Barka et tous les dirigeants de l'Istiklal sont libérés. À Paris, la négociation a déjà commencé.
Et puis c'est assez tard. Je travaillais avec un producteur qui s'appelait Patrice Barra, qui lui a une affaire personnelle avec le Maroc, parce que son père était un Français soutien des nationalistes marocains. Et nous avions ce projet de faire un film sur Ben Barka, qu'on a eu beaucoup de mal à faire financer parce que Hassan II était encore au pouvoir et les liens entre la France et Hassan II étaient tels que la télévision publique ne voulait pas le froisser. Et donc, en fait, il a fallu attendre la mort de Hassan II pour pouvoir faire le film, ce que nous avons fait. À partir du moment où il est mort, Arte a accepté le projet et on a fait le film.
Alors c'est quoi le titre du film? C'est Ben Barka.
C'est l'équation marocaine.
Alors, c'est quoi cette équation?
Alors l'équation marocaine, c'est l'équation entre le palais et toute la vie politique marocaine. Elle s'articule dans les relations entre le palais et la classe politique. Il y a deux centres de pouvoir au Maroc. Il y a le palais et il y a la classe politique qui, elle, est élue. Où il y a des élections, il y a des partis, il y a une constitution, il y a un fonctionnement, une pratique démocratique, disons. Mais il y a le palais, voilà. Et l'équation, c'est les rapports entre les deux. Et c'est cette équation-là que Ben Barka aurait voulu résoudre, bien sûr, à l'avantage de la politique, c'est-à-dire de la démocratie. C'est-à-dire que
de l'exécutif et du
législatif. C'est-à-dire que la monarchie devienne une monarchie constitutionnelle, une monarchie qui règne sans gouverner, comme en Espagne, comme en Angleterre, enfin dans beaucoup de pays où la monarchie est un ciment national auquel les gens sont attachés, etc., mais qui ne gouverne pas. Au Maroc, cette équation n'a jamais été résolue. Et la légende dit, on ne saura jamais si elle est vraie, que comme Ben Barka était professeur de mathématiques, qu'un jour le roi lui aurait fait passer un message par un émissaire secret en lui disant « j'ai besoin de toi pour résoudre l'équation marocaine ». Mais l'équation, les politologues marocains continuent d'utiliser ce terme parce que c'est vraiment une équation qui n'a jamais été résolue, qui décide de quoi et comment et pour le moment, l'équation est toujours en faveur du palais, quoi, et pas de la classe politique. En gros, très souvent au Maroc, tout ce qui va bien est mis au crédit du roi, et tout ce qui va mal est mis
aux exécutifs.
Voilà. Et c'est un peu simplé, mais voilà. L'équation, voilà, c'est ça. L'équation marocaine, c'est la division du pouvoir entre le palais et le... Comment se fait la division du pouvoir entre le palais et l'exécutif.
Vêtu d'un uniforme de général, le roi nomme son fils chef d'état-major de la nouvelle armée marocaine. Les troupes sont formées d'un curieux mélange d'anciens résistants et de goumiers formés par la France. Oufkir est chargé d'apprendre au prince le métier des armes. La lutte pour le pouvoir a commencé. Comme dans une partie d'échecs, chacun place ses pions. Le palais, la résistance, l'Istiklal. Le parti est à son apogée dans les villes, mais il ne contrôle ni les campagnes, ni les hommes armés. Le temps de l'épuration est arrivé et Ben Barka n'est pas un ange. Il y aura des morts, ceux qui refusent l'autorité du prince, ceux qui veulent poursuivre la lutte aux côtés des Algériens, ceux qui s'insurgent contre l'hégémonie politique de l'Istiklal. Le chef résistant, Abbas Messaadi, est la victime la plus emblématique de cette époque. Il est abattu dans la voiture qui l'emmène à un rendez-vous avec Ben Barka. À l'opposé de la carte politique, le résistant communiste Abdelkrim Ben Abdellah, assassiné par des hommes proches de l'Istiklal.
Nous avons subi des coups terribles dans le cadre de cette lutte fratricide entre résistants. À ce moment-là, les résistants n'orientaient plus leurs pistolets, leurs armes vers l'ennemi étranger ou marocain, mais entre les résistants eux-mêmes. Et nous ne voulions pas, surtout, dénoncer la main du Parti de Sérèse à ce moment-là parce qu'il était l'objet d'attaques de la part de la féodalité, du palais royal. Et surtout, Ben Barka était un homme qu'il fallait à tout prix préserver, non seulement des attaques, mais même de préserver sa réputation de patriote. Parce que de toute façon, lui, il était animé de bonnes intentions, incontestablement.
Qui va gouverner le Maroc? Le roi ou les hommes politiques? Comment se partageront-ils le pouvoir? Selon quelle formule? C'est cela l'équation marocaine. Jusqu'à sa mort, Ben Barka va tenter de la résoudre. Mais ni lui, ni ses héritiers politiques n'y sont parvenus.
Le souverain a réaffirmé sa volonté de mettre prochainement en place les institutions représentatives prévues par la charte royale. Les membres du gouvernement ainsi que le corps diplomatique assistaient à cette séance solennelle au cours de laquelle M. Mahdi Ben Barka a été réélu pour la troisième fois au fauteuil présidentiel.
En 1957-1958, les deux débats très importants. L'un, c'est la politique étrangère. Et l'autre, c'est la politique économique et financière du pays. Pour libéraliser l'économie, ou vraiment nationaliser, surtout le commerce extérieur. Les gens s'intéressaient au commerce extérieur. Il y avait Bouabid, vraiment, qui avait un discours très important. Il a dit, l'économie, ça appartient à l'État. Il ne faut pas le donner à des privés, comme ça, d'enrichir les gens, comme ça.
Pourquoi les gens s'intéressaient tellement au commerce extérieur?
Parce que c'est pour gagner de l'argent. Les impôts à l'export, c'est ça.
La corruption, les pots de vin, les marchés truqués, les monopoles. Dans tout cela, Ben Barka, l'incorruptible, joue le rôle de Don Quichotte. Le tiers-monde est en mutation. Il est reçu en Tunisie, où Bourguiba a déposé le bey. En Égypte, où Nasser et les officiers libres ont renversé le roi Farouk. Au Vietnam, où Ho Chi Minh préside le pouvoir communiste. Partout, il demande à visiter des usines expérimentales, des écoles, des pouponnières. Il est à la recherche de la recette miracle contre le sous-développement. L'expérience chinoise n'a pas encore sombré dans la folie meurtrière. Elle le remplit d'enthousiasme. Si un pays aussi immense, aussi féodal que la Chine, réussit à vaincre l'illettrisme et la misère, le Maroc peut aller très vite.
Dans un colloque qui se passait quelque part en Europe, les journalistes l'avaient entouré, lui avaient posé la question « Mais M. Ben Barka, le protectorat n'avait pas que des aspects négatifs. Que vous a apporté le protectorat ?» Il nous a fait mesurer l'ampleur de notre retard. Voilà comment il jugeait le protectorat. Il voulait faire brûler les étapes à ce pays pour en faire un pays modèle du tiers-monde.
La dynamo Ben Barka est à l'œuvre. Il n'est même pas ministre, mais il se mêle de tout. Lui qui ne roulait qu'à bicyclette se déplace maintenant en hélicoptère. En bon mathématicien, il connaît la vérité des chiffres. 11 millions d'habitants, 90% d'analphabètes. Il ouvre des chantiers où des milliers de jeunes se portent volontaires. Ce film de propagande a longtemps été expurgé des images de Ben Barka qui y figuraient. Il raconte la construction de la route de l'unité entre la ville de Fès et l'ancien Maroc espagnol. C'est l'œuvre de Ben Barka, et c'est à peu près tout ce qui reste de lui au Maroc.
Et la rigueur documentaire, c'est d'en parler sans faux semblant. Voilà, parce que c'est la réalité. Et de faire parler les hommes politiques qui ont participé à la naissance de cette équation, de les faire parler à un âge assez avancé pour qu'ils n'utilisent plus la langue de bois et qu'ils la décrivent concrètement. Et c'est ça, je crois, qui rend ce film intéressant. C'est que la plupart des participants étaient déjà retraités, retirés de la vie politique et très âgés. Ils sont tous morts maintenant. Quasiment aucun des participants à ce film n'est encore vivant. Mais il y avait des leaders de tous les bords politiques au Maroc. Un leader communiste, un leader des proches du palais, des gens de l'Istiklal, des héritiers du parti de Ben Barka, des gens de sa famille aussi, et tous assez âgés et qui n'avaient plus peur de rien et et qui ont parlé, je pense, dans une relative confiance absolue, qui étaient heureux qu'on vienne leur demander de parler de tout ça. Et c'est un film dont je dois dire que je suis très fière, qui n'ait jamais été diffusé à la télévision marocaine, mais que beaucoup de Marocains ont vu, parce qu'il a beaucoup circulé en cassette, VHS, puis en DVD, et qu'il est piraté, et que c'est très bien.
Alors on a encore beaucoup de choses à dire sur tes films au Maroc, mais on va passer à l'autre partie, ton autre obsession, si je peux me permettre, qui sont les films sur la situation politique en Israël et en Palestine. Et tu vas me dire si je me trompe, mais moi j'ai vu vraiment ton regard change en fonction de... Tes films au Maroc sont très... Il y a une tendresse, il y a une recherche d'une mémoire retrouvée, enfin il y a des clés qui c'est de retrouver quelque chose de très, ouais, de très affectif, de pas frontal.
Ça dépend de quoi je parle. Dans Ben Barka, c'est un film très politique.
Oui, mais pas avec un... Je ne dirais pas que c'est un film avec un vrai point de vue historique. Hein, alors que les Ziyala et les mille et un jour de Abjadman...
C'est pas la même chose. Ouais. C'est pas le même sujet. C'est pas... Enfin, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que j'ai fait le film, quand j'ai fait Ben Barka, c'était avec beaucoup de tendresse, justement, parce que il devenait possible de parler du Maroc. Avant, c'était tout simplement impossible de filmer au Maroc un tel film. C'était impossible pendant les années de plomb. Et donc, il y a eu quelques années après la mort de Hassan II, où la parole s'est libérée. Il y avait un gouvernement de transition qui était dirigé par un socialiste, donc par un héritier du parti de Ben Barka, et donc j'ai eu les autorisations de tournage, et pour moi c'était extraordinaire. Je considérais que je faisais ma part en tant que Marocaine, que je faisais ma part de ce retour à la liberté de parole, et c'était très émouvant pour moi. Alors ça se voit pas peut-être dans le style du film, mais je pense, puisque je l'ai fait justement pour la télévision, pour une émission très encadrée, les mercredis de l'histoire, où le ton doit être neutre, les Marocains en tout cas ne s'y sont pas trompés, puisque le film a été interdit de diffusion, et qu'il n'a toujours pas été diffusé au Maroc, et il n'a pas été interdit de projection. Mais en tout cas, il n'est jamais passé sur une chaîne de télévision. Les Marocains ne l'ont vu que sur des chaînes étrangères où ils continuent de le voir sur YouTube. Voilà.
C'est vrai qu'il y a dans ton travail, dans ton travail d'approche historique des personnages que tu filmes, notamment parlant de Ben Barka et bien d'autres, de l'autre côté du monde arabe, il y a eu ce tout premier film, Bichara, un peu plus tard, Mahmoud Darwish, c'était porte-parole de la grande question, la grande équation mondiale, Palestine, Israël. Et dans un des extraits que tu m'avais envoyé, je trouve sur Bichara, ce député arabo-israélien, je trouve aussi, surtout de ton côté, du côté réalisateur, que tu essayes de la manière comment tu rentres dans ces sphères, dans cette audience politique, puisqu'on est au sein du Parlement où tu filmes tes personnages d'une grande audace, sans, avec une grande liberté et sans entrave. C'est-à-dire que même des fois il y a des choses qui échappent, mais c'est le recueil d'un sentiment très proche des personnes. J'ai pas eu tout le film, j'ai eu juste l'extrait de Bichara, qu'on va certainement passer dans l'émission. J'aimerais peut-être que vous nous résumiez un petit peu les circonstances de Bichara, ce député israélien, et qu'est-ce que ça raconte le film.
Hazmi Bichara est un philosophe palestinien qui était citoyen israélien, c'est-à-dire il fait partie de ce que les Palestiniens appellent les Palestiniens de 48. Ce sont les Palestiniens qui ont pu rester sur le territoire chez eux après la création de l'État d'Israël, alors que toutes les autres étaient chassés et expulsés vers la bande de Gaza, vers le Liban, etc. Donc ils ont eu la nationalité israélienne. Ils représentent encore aujourd'hui quasiment un citoyen israélien sur cinq, mais ce sont des citoyens de seconde classe, beaucoup de discrimination. Enfin, ça prendrait beaucoup de temps de développer ce sujet. Hazmi Bichara a fondé un parti démocratique, un petit parti politique. Il a été élu député. Et en l'an 2000, je crois, si je ne me trompe pas, il a été candidat, candidat à l'élection du Premier ministre. C'est la seule fois où il y a eu une élection directe du Premier ministre israélien. Après, ils ont arrêté ce système de scrutin. Alors, c'était, bien sûr, il n'avait aucune chance de gagner, mais c'était une campagne électorale symbolique. Très forte, très intéressante, et j'ai décidé de le suivre pendant cette campagne électorale parce que c'était un enjeu démocratique très fort. Et lui, en particulier, est un orateur formidable. Je pense qu'il était vraiment la chance. Je pense qu'il aurait pu sauver les Palestiniens, Hazmi Bichara. Entre-temps, il n'est plus, il est exilé, il a dû s'exiler parce que on a monté contre lui, il y a eu un. Il a été accusé d'avoir fait des choses abracadabrantes, d'avoir guidé les missiles du Hezbollah, enfin, je ne sais pas quoi. Enfin, bon, il risquait la prison à vie. Il a réussi à... Parce qu'il ne voulait pas de lui, encore une fois, c'est quelqu'un qui était dangereux, parce que justement, il proposait la démocratie. La démocratie pour tous, un État où tous les citoyens seraient égaux sur tout le territoire. Voilà. Et donc, il dirige maintenant un centre de recherche. Il est basé au Qatar et il dirige un centre de recherche très important, démocratique, sur le monde arabe. Et moi, j'ai suivi cette campagne électorale, la plupart du temps seul, avec une petite caméra. J'avais un tout petit budget. Et voilà, et c'est un film qui s'appelle Le citoyen Bichara, puisque il a essayé d'organiser la population palestinienne d'Israël autour d'un idéal de démocratie et d'égalité.
Oui, parce qu'il faudrait surtout souligner.
C'est un film, encore une fois, que j'ai fait, même si ça ne se voit pas, avec beaucoup de tendresse, parce que j'avais pour lui de l'amitié et de la tendresse. Et je pense encore aujourd'hui qu'il est l'occasion ratée, quoi, que Azmi Bichara aurait dû être aurait dû diriger le mouvement de libération de la Palestine et l'État d'Israël à la fois, quoi. Voilà, c'est ça, c'est des gens comme ça qui auraient pu résoudre l'équation palestinienne pour le coup.
Oui, complètement. Parce que surtout, ce qu'il représente, c'est plus qu'une résistance, la résistance de la résistance, ou plutôt les dernières résistances politiques dans l'État israélien, puisque maintenant c'est l'inverse, hein, c'est plutôt la Palestine qui ne souhaitait pas la reconnaissance d'Israël, maintenant c'est Israël qui ne veut plus de reconnaissance du peuple palestinien. Et surtout qu'il dénonce aussi ses propres confrères députés, qui, eux, très souvent, il dit, ils sont passés du côté du Likoud, c'est-à-dire en même temps, ils sont arabes, ils défendent la cause arabe, mais en même temps, ils appartiennent à un mouvement qui dessert plutôt leur... Donc je pense que c'est ça qui a fait de lui l'ennemi numéro un, l'espion par excellence.
Il est palestinien, mais il est aussi citoyen israélien. Il est député de l'État juif, mais ses électeurs sont arabes. Démocratie, citoyenneté, nationalisme, identité, ces mots, il les met tous les jours à l'épreuve. Il y a 13 députés arabes en Israël. Des islamistes, des communistes, des notables, et aussi quelques arabes de service. Même le Likoud d'Ariel Sharon a le sien. Azmi Bichara est le seul représentant du mouvement qu'il a fondé et qu'il dirige. Le Rassemblement National Démocratique. Un nom compliqué pour une idée simple. Donner une voix à ceux qui n'en ont pas.
L'école à Kvotsot Amikopachot Baaretz Yesh Lobbies Bad Ragim Asher Mikablim Tahlatot.
C'est un film avec un style très simple. On est derrière un homme politique très charismatique, très minoritaire et à la fois très charismatique, un grand orateur, un grand démocrate dans un environnement qui ne l'est pas, un représentant des gens qui n'ont pas de voix, qui sont discriminés et qui a le culot de se présenter à l'élection suprême, quoi. Et le film le suit. Le film le suit jusqu'au moment où il regarde les résultats, évidemment, où c'est Sharon qui est élu.
Lui fait combien ?
Oh bon, je sais plus, mais c'est dérisoire. Enfin bon. Et c'est ça, c'est un film qui est dans l'action, qui est comme quand je disais, je ne fais pas des films avec le même dispositif. Ça, c'est un film, vraiment, j'étais avec une petite bagnole, avec une copine qui conduisait et qui faisait le son, et on lui courait après parce qu'il sillonnait tout le pays à faire des discours et des meetings. Et nous, on était derrière lui avec notre petite bagnole. Et quand il s'arrêtait, on arrêtait aussi. Et puis on sautait dehors et puis on lui courait derrière après avec la caméra et la perche. Et c'était formidable. Quoi. C'est une expérience cinématographique très forte, très fauchée, mais très forte, dont je garde un excellent souvenir. Voilà, et ce film-là est passé sur Planète, c'était pas une très grande chaîne de télévision. Il est passé sur une chaîne privée israélienne aussi, à l'époque. C'est un film de cinéma direct, quoi. C'est très différent des films que je fais maintenant pour le cinéma où je prends mon temps. Là, il fallait, et puis il n'y avait pas le temps de réfléchir, quoi. Il n'y avait pas le temps de 6 mois de chercher de l'argent parce qu'il a annoncé sa candidature et il fallait se mettre à tourner la semaine d'après. Donc j'ai réussi à grappiller, je ne sais plus, il y avait une fondation américaine d'ailleurs. Voilà. Fondation Ford, c'était Soros, je crois, à l'époque, qui donnait un peu d'argent à des films sur la démocratie. Donc j'avais réussi à grappiller une petite subvention par-ci, par-là, et la petite chaîne Planète. Et on était partis tout de suite, je vous dis, à deux copines dans une petite bagnole de location, quoi, pendant 3 semaines. Et c'est encore un autre genre de cinéma documentaire, mais c'est un peu la noblesse du cinéma documentaire, ça. Pour moi, la noblesse du cinéma documentaire, c'est soit ça, c'est-à-dire le cinéma direct, soit le road movie. Voilà. Tout le reste, c'est bien, mais c'est pas quoi. L'essence même du documentaire, c'est de ne pas intervenir, c'est de filmer les choses pendant qu'elles se passent. Ouais.
Alors, Mur, tu le classerais dans quelle catégorie ?
C'est un road movie. C'est un road movie, complètement. C'est-à-dire, ce sont des étapes. Chaque séquence est une étape et on ne revient jamais en arrière.
Là, un film, donc Mur, c'est en 2004, donc 3 ans après Citizen Kane.
Mur, c'est le premier film que j'ai fait en production cinéma. Et ça, c'est très différent. C'est ma rupture un peu avec le monde de la télévision, pas de mon fait, mais ça correspond à une époque où la télévision n'avait quasiment plus rien à proposer à des gens comme moi, c'est-à-dire à des gens qui veulent faire du cinéma documentaire d'auteur, qui prend du temps et de la rigueur et de la recherche, et plus aucune chaîne ne permettait ça, quasiment. Et puis surtout pas sur des sujets un peu pas complètement consensuels comme les miens. Donc c'était absolument pas possible. Aucune chaîne n'aurait financé un film sur le mur en Palestine. Aucune. C'était pas possible. Ou alors sous forme de reportage qui aurait pas dit grand-chose. Mais le film tel que je le voulais, à savoir de voir le mur sortir de terre et de filmer les paysages qu'il défigurait et d'avoir tellement de personnages à la fois israéliens et palestiniens, aucune chaîne n'aurait accepté ça. Donc c'est la première fois que je me suis adressée à l'Avance sur recette et que je l'ai eue, et donc on a fait le film avec cet argent-là. Ouais. Et là, il est sorti au cinéma. Et alors, j'ai eu la chance, c'est que le film a été sélectionné au Festival de Cannes, à la quinzaine des réalisateurs, et qu'il a très bien marché, je dois dire. Il s'est beaucoup vendu dans le monde entier. Et donc, tout d'un coup, alors que ça faisait 15 ans que je faisais des films, tout d'un coup, je suis devenue cinéaste. Tout d'un coup, mon nom était dans le journal. Parce qu'à la télévision, on est vu par beaucoup plus de gens. Votre travail est vu par beaucoup plus de gens, en fait, mais vous êtes beaucoup moins médiatisé. Au cinéma, vous pouvez sortir, faire 15 000 entrées, mais vous aurez une double page de critiques dans Le Monde si le film plaît aux critiques. C'est très étrange, quoi, la différence. En tout cas, pour le cinéma documentaire, c'est très clair, puisque nous faisons à la fois des films pour le cinéma et pour la télévision. Et le cinéma respecte beaucoup plus l'auteur et le médiatise. Mais là, par exemple, mon dernier film, il est pour la télévision, et je suis très contente, en fait, parce que je suis sûre qu'il sera vu 50 fois, par 50 fois plus de gens, ou si ce n'est plus, que s'il était sorti en salle.
Peut-être aussi par ce biais-là de cette émission de Redan Jelloun, n'est-ce pas ? C'est dans l'émission des histoires et des hommes.
Oui, au Maroc à une heure de grande écoute sur une chaîne nationale, à une heure de grande écoute, ça me convient tout à fait, oui, c'est très bien.
Ça pourrait être le véhicule pour que le film puisse voyager vers d'autres pays, à travers les
médias. Mais il va voyager parce que maintenant les films n'ont plus besoin de voyager, ils sont mis sur une plateforme où on peut les voir n'importe où. Alors voilà. Ou alors il suffit, ils sont mis, moi mes films sont sur Ciné Mutin, vous payez 5 euros et vous le voyez où que vous soyez, quoi, voilà.
Alors Mur, c'est un road movie, comme vous l'avez dit.
Oui, complètement. Mur et Ziara ont le même dispositif à peu près, ils n'ont pas du tout le même sujet, mais ces deux films à 20 ans de 20 ans d'écart ont le même dispositif, à savoir des films d'étape. Comme ça. Et un lieu, une personne, grosso modo. Voilà. On avance, on va vers un autre lieu, on rencontre quelqu'un, on passe quelques minutes avec lui, quelques minutes de film, enfin une bonne journée de tournage qui deviennent quelques minutes de film. On filme le lieu et la personne, et puis le lendemain, on va dans un autre endroit où on filme une autre personne. En gros, c'est ça, le dispositif de ces deux films-là.
Ah, j'aimerais bien que moi, il y a une séquence qui m'a vraiment marqué, qui me laisse vraiment des traces, qui est la séquence d'ouverture, en fait. C'est un long travelling sur le mur, qui est réalisé par Jacques Bouquin, qui est un travail avec un grand, ouais. grand, grand chef opérateur. Et à ce moment-là, off, on entend un dialogue entre vous et des enfants israéliens.
Des filles, oui, oui, oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu
Oui, oui, c'est intéressant parce que c'était le premier jour de tournage et à l'arrivée, c'est devenu le premier, c'était aussi le premier plan du film. Nous avons filmé ce travelling impressionnant sur un mur. C'était les débuts du mur, il n'était pas très haut celui-là, à Abou Dis, c'est-à-dire dans les faubourgs de Jérusalem, et la municipalité ou bien les autorités locales de ce quartier avaient décidé d'égayer le mur en le peignant. Ils avaient amené des jeunes des jeunes artistes pour qu'ils peignent des couleurs sur le mur, voilà, une sorte de fresque. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'une partie, en tout cas, de ces artistes ont décidé de peindre ce que le mur cachait, c'est-à-dire de peindre le paysage qui était derrière, à savoir le paysage palestinien qui était derrière ce mur, les arbres, tout ça. J'ai opté avec Jacques pour faire un très long travelling, parce que c'est assez long en voiture. Et puis, une heure avant ou une heure après, je ne me souviens plus, pendant qu'on se préparait ou bien pendant qu'on rangeait notre matériel, on a vu un groupe de petites filles qui jouaient au pied de ce mur. Et je suis allée vers elles. Je me suis mise à discuter avec elle.
שמישהו יהודי.
אני רואה עליו.
איך את רואה?
לפי שפת הדיבור.
ואם אני אדבר שפה אחרת?
רואים לפי המבטא.
ואם אני אדבר בערבית? ואם אני אדבר בערבית, את תדעי שזה ערבית?
לא, רואים לפי הפרצוף.
כן, אני יודע כי אמא שלי מדברת ערבית.
רואים לפי הפרצוף.
אני יודע כי אמא שלי מדברת ערבית.
אמא שלך מדברת ערבית?
כן, היא מרוקאית.
אז כשאימא שלך מדברת ערבית, איך את יודעת
אם... היא לא מדברת ערבית בבית.
למה?
מה זה למה? כי אני לא מבינה.
ואם אימא שלך מדברת ערבית, אז אי אפשר לחשוב שהיא ערבייה כשהיא מדברת ערבית?
Du mur, parce que la caméra soit n'était pas encore prête, soit était déjà démontée, et par contre l'ingé son était toujours opérationnel, quoi. Donc je lui
ai fait l'ingénieur du son.
L'ingénieur du son. Et je lui ai fait signe parce que ça, la conversation commençait à devenir intéressante, et il est venu avec sa perche et il m'a mis un petit micro-cravate. Et j'ai discuté avec ces petites filles, et puis voilà, et ça a été enregistré, la conversation a été enregistrée. Et ensuite, quand j'ai écouté cette conversation, j'ai trouvé qu'elle irait magnifiquement bien. C'était pas vraiment une tricherie, puisqu'elle jouait effectivement à cet endroit-là, et j'ai mis la conversation en off sur ce travelling, et ça a ouvert le film. Au début, sur ce traveling que j'aimais beaucoup, j'avais essayé plusieurs musiques, des choses. Et puis à un moment, je me suis dit, tiens, il y a les petites filles là. Voilà. Et c'est comme ça que le film s'ouvre. Et elles disent des choses très fortes. Elles disent, on a eu peur de vous parce qu'on croyait que le bâton, là, que c'était une arme. Elles parlaient de la perche. Donc on voit la manière dont les enfants sont élevés dans la peur. Et puis elle disait, puis on avait peur de vous parce qu'on croyait que vous étiez des Arabes. Et puis après on a vu que vous étiez des Juifs. Et je lui demande, mais comment tu sais qu'on est des Juifs? Alors elle dit, parce que tu parles hébreu. Enfin, j'ai dit, oui, mais peut-être que je ne suis pas juive en fait. Et là, elle commence à avoir peur. Comment tu n'es pas juive? Enfin, il y a beaucoup de choses passent dans cette conversation. Qui ouvrait bien le film, voilà, qui allait suivre, qui est une histoire de peur et de séparation et de on ne sait pas qui est juif et on ne sait pas qui est arabe, voilà. Parce que dans tout le film, et ça j'y tenais, on ne sait jamais de quel côté on est. On doit le comprendre. Parce que il n'y a rien qui ressemble plus à un juif qu'un arabe, hein, et vice versa. Et il serait temps de Et je voulais montrer ça au cinéma.
Il y a une autre séquence qui m'a marqué. À un moment donné, tu appelles un psychiatre par écran interposé. Et puis, tu lui dis...
Écoute, à Gaza.
Et tu lui dis... Vous lui dites, mon film parle du mur, de la barrière, de ces barrières. Penses-tu que c'est une bonne idée de parler de ça avec un psychiatre? Parce que des fois, j'ai l'impression de devenir folle. Tout devient séparation et j'ai l'impression d'être autant juif qu'arabe. Suis-je malade?
Et il me répond non, c'est toi qui es normal. C'est toi qui es normal et c'est le monde qui est devenu fou. C'est Eyad Sarraj, le docteur Eyad Sarraj, qui est décédé il y a quelques années d'un cancer. Et je suis heureuse qu'il ne soit pas vivant pour voir ce qui est arrivé à Gaza, où il vivait, où il avait fondé un centre magnifique de thérapie pour les enfants, pour les traumatismes de la guerre. Et il est fort possible que les enfants de Gaza maintenant, ceux qui survivent, il n'y a personne pour soigner leurs traumatismes. Et je pense qu'il... Quoi qu'il arrive maintenant, de toute manière, ils seront traumatisés à vie, que c'est absolument impossible de guérir du traumatisme qu'ils sont en train de vivre, même s'ils survivent. Et je suis heureuse que mon ami Eyad Sarraj ne soit pas là pour voir ça.
جاهزين
اهلا وسهلا والله good to see you سيمون
good to see you how are you كيف حالك
الحمد لله انا سعيد اني اشوفكم على شاشه التلفزيون انا في غزه وانتم في رام الله كنت اتمنى انه تكونوا معنا تكون مع بعض في رام الله او في غزه او في القدس او في تل ابيب بس للأسف الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة أصبحت تمنع الأصدقاء أن يلتقوا. غزة عبارة عن سجن كبير محاط بالأسلاك الشائكة وبأسلاك مكهربة من كل أطرافه ومن الناحية الغربية البحر الأبيض المتوسط. هو سجن كبير وأيضا سجن لا يمكن أن يحمل إنسان فيه يحتمل إنسان فيه لأنه سجن بلا سقف الطيارات والقذائف ممكن تنزل في أي وقت على أي بيت في أي مكان أخطر الظواهر اليوم أنه حوالي 24% من أطفال غزة وأنا بصور هذا ينطبق على كل فلسطين يتمنوا أن يصبحوا شهداء 24% يتمنوا أن يموتوا في عمليات استشهادية هذه علامة خطرة في ناس كثيرين يمكن ينظروا منها باعتبارها شيء بطولي שיפתחר בי, ולכן في نظري انا كطبيب نفسي هو علامه خطيره ان يتمنى الطفل وهو في الثانيه عشره ان يموت عندما يصبح 18 عام.
You know, Iyad, my film is about the wall, about the fence, about fences. Do you think it's a good idea to talk about this with a psychiatrist?
It's always good to talk with a psychiatrist.
Because sometimes I feel maybe I am mad. Everything is going to separation, and I still feel that I am as much a Jew as an Arab. Am I sick?
No, you are the normal one, but you are the exception. In this part of the world, unfortunately, the normal is the exception. It is the irrationality and the abnormality, the racism and the extremism that is prevailing today in the Holy Land, which has been taken by the devil.
À l'époque, 2004, déjà, je n'avais pas pu entrer à Gaza. Les gens ont la mémoire courte. C'est pour ça qu'il est interviewé par l'internet, par écran. Il n'y avait pas encore Internet, hein. C'est un modem. En 2004, on avait des espèces de modems très, très rudimentaires où on pouvait, si, on pouvait se lier, on pouvait se parler à un ordinateur distant. C'était tout un bordel. Et lui était lié à la... Son ONG de psychiatre était lié à un autre centre de psychiatrie en Cisjordanie, et ils avaient ce système où ils pouvaient se mettre en contact à des heures bien précises avec un modem qui faisait du bruit. Et donc nous avions utilisé ce système. Aujourd'hui on aurait fait un Zoom ou je ne sais pas quoi, mais à l'époque ça n'existait pas. Et parce que nous n'avions pas eu l'autorisation d'entrer à Gaza, qui déjà était entouré d'un mur infranchissable il y a de cela 21 ans.
بكون شتاء بصير الناس في قلب اللبس والطينة يمشوا وهذا كلهم بصير طينة. رغم ذلك الناس بتمشي عشان توصل لرزقتها.
كلها اصوار وهي صار امتد لغايه كمان بس الساعه مش مكملينه ها
شو بتشوف من بيتك
كل المنطقه هو كل المنطقه شو بصير هون كلها كيف بنزل عن الجبال وكيف بطلع من الجبال
عربية عبرية
مثل ما بدك
شو السؤال؟
ما فيش سؤال
السؤال هي انت شايفه كل الوقت مسكرين على الضفه وعلى انا بلف كمان بلفوني بلف كل يوم 5 كيلو الواحد عمره 50 سنة مش صغير يعني هاي اسمها حسيمة مسكرة رام الله مسكرة عناتة مسكرة كل يعني زمان التجول الدنيا فيش الناس مش عارفة تجيب الخبز لأولادها أنا عندي أولادي هويات قدس وبيشتغلوا عند اليهود بس أنا ما بقدر أروح وأجي أنا ما بقدر أروح وأجي مرتي قدس وولادي قدس عندي نص الأولاد قدس ونصهم ضفوا
ce film c'est aussi un pied de nez parce que au moment donné où certains construisent des murs toi à travers ce film tu construis des ponts.
Moi, dans ce film, je suis superwoman, c'est-à-dire que je passe d'un côté à l'autre. On ne sait pas très bien qui je suis, parce qu'en Palestine, c'est l'endroit au monde, sauf Gaza, où il y a le plus de caméras au mètre carré. Je veux dire, c'est le conflit le plus couvert au monde. Tout le monde a déjà été interviewé. Les gens ont tellement l'habitude de la caméra que tout le monde l'utilise pour faire sa propagande. Et la première question qu'on vous pose, c'est pour quelle chaîne, quoi. Dès que vous arrivez quelque part, vous êtes de quelle chaîne? Et selon la réponse, on va vous répondre, on va adapter son discours. Et là, je brouillais les pistes parce que mon équipe était mixte. J'avais une assistante israélienne qui s'occupait des personnages et des repérages avec les Israéliens et une arabe, pas palestinienne mais arabe, qui s'occupait des Palestiniens et mon chef opérateur était français et moi je parlais à la fois hébreu, anglais, français, arabe selon la tête du client quoi. Je me faisais passer pour qui pouvait passer. Je passais mon temps à ruser, de même que j'ai rusé en enregistrant une société israélienne pour demander mes autorisations de tournage. C'est un film de ruse, c'est un film où je passe les checkpoints avec mon équipe continuellement, sauf celui de Gaza qu'on n'a pas réussi à passer. Et comme on n'a pas réussi à le passer, on a trouvé ce modem et on a réussi quand même à passer symboliquement.
Et donc là, on est 20 ans plus tard.
Là, on est 21 ans plus tard, et c'était le bon vieux temps. Voilà. C'était atroce, c'était horrible, mais c'était le bon vieux temps par rapport à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a un génocide. Aujourd'hui, on ne sait pas quand ça va se terminer, si ça se terminera. Aujourd'hui, il y a un gouvernement israélien qui veut ouvertement chasser tous les Palestiniens de Gaza, annexer Gaza, annexer toute la Cisjordanie, c'est-à-dire avoir un grand Israël de la Méditerranée jusqu'au Jourdain, et que le monde entier est complice et les laisse faire en faisant semblant de les gronder, mais personne ne prend de sanctions. Les États-Unis posent leur veto à chaque fois qu'il y a la moindre velléité d'arrêter ça au Conseil de sécurité. Tout le monde est complice, les Occidentaux, les Arabes, tout le monde. Voilà. Le monde a tout à fait les moyens d'arrêter ça, mais il ne l'arrête pas. Le peuple palestinien est totalement sacrifié et c'est quelque chose dont on ne peut pas se remettre. Quelqu'un comme moi ne peut pas se remettre. Voilà. Et je pense que toute notre civilisation ne se remettra pas de ça, parce que ce n'est pas la première fois qu'un peuple est anéanti, malheureusement. Mais il est anéanti en direct. Il est anéanti en direct sur nos écrans. On voit tout. On voit tout. On entend les cris des gens pendant qu'ils sont en train d'être brûlés vivants. Et ça... Marcel Ophuls est mort il y a quelques jours et il avait fait Le Chagrin et la Pitié, dans lequel je ne l'ai pas revu, mais je me rappelle vaguement d'une scène où quelqu'un demande est-ce que s'il y avait eu la télévision à Auschwitz, est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Et quelqu'un lui répond non. Et ben c'est ce qu'on est en train de vivre là. On sait tout, on voit tout, et ça n'y change rien. Et c'est quand même, pour un documentariste, c'est un constat d'échec terrible, ça. Parce que nous faisons quand même ce que nous faisons avec l'idée que si on montre, si on explique, si on a des images, on empêchera le temps d'avancer, on gardera trace du passé et on empêchera ce qui doit être empêché. Et non, ça n'empêche rien.
Surtout quelqu'un comme vous qui considérez que le cinéma est une arme politique, c'est de conscientisation, et que le cinéma peut quelque part...
Je ne considère pas le cinéma comme une arme politique, mais je considère le cinéma comme un moyen d'expression qui me permet d'exprimer justement ma volonté de justice, d'apaisement, d'égalité, de progrès. Aussi, tout en ayant des enjeux esthétiques très forts, c'est un art, et comme tous les arts, il est politique aussi, donc ça, il le restera. Au moins, il aura servi à m'exprimer. C'est-à-dire, il sera une archive, comme tout est archive, qu'il y a eu, à un moment donné, une petite cinéaste qui a fait des films où elle exprimait ça. Bon, mais ça n'a rien empêché. Aucun film n'a jamais changé le monde, les miens comme les autres.
Et en même temps, on ne peut pas faire le deuil de l'idée qu'il existe des œuvres utiles, mûres, c'est...
Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est tout ce que je sais faire. Alors, je fais ça. Mais je sais que j'ai monté mon dernier film, j'ai fait le montage ici à Marseille, pendant que se déroulait ce qui se déroule à Gaza, et que j'ai dû puiser en moi des forces que je n'avais pas pour arriver à la fin de ce montage, parce que je me sentais mourir de l'intérieur, et je sentais que tout ce que je faisais était complètement dérisoire. Mais le film était engagé, il était tourné, j'avais des partenaires à qui je devais le livrer, et puis le personnage d'Edmond, quand même, avait quelque chose à dire, même s'il est mort il y a 15 ans, il avait quelque chose à dire sur aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a donné la force de terminer ce film, sinon je ne l'avais pas. C'est un miracle que j'ai réussi à le terminer. Vous pouvez en parler avec ma monteuse, si vous voulez, elle vous le dira, mais je veux dire, elle me ramassait un peu à la petite cuillère chaque matin, et on y est arrivé, parce que Edmond exprimait cela. Maintenant, ça ne change rien, mais ça a été dit.
Exprimer la fusion des peuples, alors que tout autour, c'est plutôt une désunion et un...
Il exprimait de façon très modeste, il le dit dans le film, qu'aucun juif digne de ce nom ne peut se reconnaître dans ce qui est fait en notre nom actuellement. Voilà. Et ça, il le disait, je pense que l'archive où il disait ça dans le film, elle date quelque chose comme... c'était avant l'an 2000, ça devait être 1997 ou 1900, un truc comme ça, quoi. Pendant une des excursions israéliennes... je ne sais plus, soit au Liban, soit à Gaza. Il y a plus de 20 ans, en tout cas.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est pas une guerre religieuse. Je ne pense pas que derrière ça, derrière cet aspect religieux, quoi. Les kamikazes du djihad et les juifs... d'Israël, c'est sûrement, c'est, ce qui est clair, c'est que c'est une affaire politico-financière. Et,
je sais pas. C'est une guerre coloniale, qui est menée par un gouvernement israélien qui est devenu un gouvernement messianique, c'est-à-dire que leur seul argument est que, toute la terre leur appartient parce que Dieu la leur a donnée. Donc oui, maintenant c'est devenu une guerre qui est menée par des illuminés intégristes, du judaïsme qui a été transformé, kidnappé pour être le judaïsme est une religion diasporique. C'est pas un nationalisme, mais ils ont le sionisme a commencé par transformer cette identité diasporique en nationalisme territorial, et cette droite extrémiste a transformé ce qui était déjà pas bien joli en colonialisme messianique. C'est-à-dire là, il n'y a plus d'argument. Il n'y a plus aucun argument, puisque c'est, Dieu, alors là, on ne peut plus rien dire, quoi.
Et si demain, une chaîne de télévision vous dit, on vous donne un budget pour aller faire un film en Israël, en Gaza, bon, Israël, ça serait, enfin, en Gaza, ça serait compliqué parce qu'aucune caméra ne rentre.
À Gaza, j'irai immédiatement. En Israël, je n'irai plus jamais de ma vie. Ni pour faire un film, ni pour quoi que ce soit. C'est la rupture totale. Mais si on m'envoyait à Gaza, maintenant j'irais, même maintenant, oui.
Et vous iriez où ?
Je sais pas, je ferais du cinéma direct, ou je ferais comme les petits gamins là, qui se démerdent pour trouver une liaison internet pour envoyer au monde une bouteille à la mer, pour montrer ce qu'ils viennent de vivre, enfin bon, je sais pas, pour filmer. Tout en sachant que ça sert à rien, mais je le ferai, bien sûr. Bien sûr.
Même si vous croyez vraiment que c'est futile, inutile, comme vous venez de le dire.
C'est inutile et en même temps, ça garde une trace. Et moi, tout ce que je sais faire, c'est garder des traces. Et je pense que ces traces, elles sont indélébiles. Et chacun de ces Gazaouis qui envoient des images et qui souvent, enfin, il y en a quand même 200 qui ont été tués à cause de ça, parce qu'ils envoient des images. C'est devenu très très dangereux de faire des images dans certaines régions du monde, et en particulier à Gaza. Mais ce sont des traces que personne ne pourra plus jamais effacer. Et donc ils ont rempli une mission qui est importante pour la civilisation humaine, pour les historiens justement. C'est sûr que les historiens apprendront plus de ces images que dans les communiqués de l'armée israélienne ou de M. Macron, ça c'est sûr. S'ils veulent savoir ce qui s'est passé tel jour, à telle date de l'année 1924 à Gaza, ils le verront dans ces images-là, et pas dans les images ni des états-majors, ni des gouvernements, ni de rien. Ils ne les verront que dans ces images. La vérité est là.
عيسى وموسى وباقي الأنبياء رجع السماء يا بعنا وعلى دلعنا وعلى دلعنا الهوى الشمالي وغير اللون
Moi, je repense à la jeune fille de 18 ans, qui est hippie,
ouais.
Qui fait du stop.
Elle est toujours hippie.
Sur les routes, qui passe d'un pays à un autre, qui dit tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien aller en Suède, allez, on y va. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle vous dise, cette jeune fille de 18 ans ?
Oh là là, quelle question ! Oh là là, ça c'est bien une question de Radio-Galère, ça. Faut être marseillais pour poser une question comme ça.
C'est la blague,
quoi.
Hein? C'est la blague.
Non, moi, je sais ce que la dame d'aujourd'hui dirait à cette jeune fille. Plus, je lui dirais, j'ai arrêté de rigoler, quoi. Voilà. Mais je suis toujours en quête de cette liberté, quoi. Je vous ai dit, même, je sais même pas où j'habite. Est-ce que j'habite à Paris, à Marseille? J'en sais rien et je m'en fous un peu, quoi. J'habite où mes films m'emmènent. C'est ça qui compte. Peut-être que je voudrais faire une mammouth à Marseille, avec Radio Galère comme partenaire médiatique, comme partenaire média. Allez.
On va peut-être se quitter, je crois que vous avez un engagement juste après.
Oui,
bon, on a passé un bon moment. Donc.
Oui, c'était bien, c'était long.
Merci beaucoup, Chino.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci à vous pour me dire quand ça commence.
Et on vous donne une invitation pour le prochain film.
Salamun alayki. Salamun alayki. Salam alayki wa anti tu'id. دينا نار الصباح سلام عليك سلام عليك أما أنا لي أن أقدم بعض الهدايا إليك أما أنا لي أن
sur la rive orientale de la mer Morte et du Jourdain. Ici, Moïse aurait contemplé la terre promise dans laquelle il ne lui fut pas permis d'entrer. La Palestine est de l'autre côté du fleuve, si loin, si près.
إلى أين تأخذني يا أبي؟ إلى جهة الريح يا ولدي لماذا تركت الحصان وحيدا لكي يؤنس البيت يا ولدي فالبيوت تموت إذا غاب سكانها أهنا حاضر لا يلامسه حين وصلنا إلى آخر الشجرات انتبهنا إلى أننا لم نعد قادرين على الانتباه وحين التفتنا إلى الشاحنات رأينا الغياب يكدس أشياءه المنتقى وينصب خيمته الأبدية من حوله
على سعديك وأبقى صبيا
إلى أبد الأبدين. أطل على صورتي وهي تهرب من نفسها إلى السلم الحجري، وتحمل منديل أم وتخفق في الريح. أطل على الفرس والروم والسومريين واللاجئين الجدد. أطل على عقد إحدى فقيرات طاغور تطحنه عربات الأمير الوسيم. أطل كشرفة بيت على ما أريد. أطل على شبحي قادما قادما من بعيد. كيف أكتب فوق السحاب وصية أهلي وأهلي يتركون الزمان كما يتركون معاطفهم في البيوت، وأهلي كلما شيدوا قلعة هدموها لكي يرفعوا فوقها خيمة للحنين إلى أول النخل.